Imaginez, après avoir subi les violences de la guerre puis la route de l'exil, après vous être caché, après avoir été violenté physiquement, sexuellement, après avoir perdu des proches et l'espoir, vous arrivez enfin sur une terre où vous pensez pouvoir refaire votre vie. Et là, vous vous retrouvez devant un défi d'un autre calibre.
مسموك أو مسموك الكامل. متى عبرتم الحدود ودخلتم البلاد؟ ابرزوا بطاقة هويتكم. لماذا أنتم هنا؟
Vous ne comprenez pas ce qu'on vient de vous dire? Pourtant, il va bien falloir. Parce que dans un monde parallèle où vous devriez fuir la France pour vous réfugier au Soudan, vous serez obligé de répondre à ces questions en arabe, même si vous ne comprenez que le français. Et vous devriez vous débrouiller coûte que coûte, parce que ces questions de droit, elles sont essentielles pour qu'on comprenne votre situation. Et si vous répondez à côté de la plaque, eh ben, c'est tant pis pour vous. Cette scène, des migrants la vivent chaque jour en arrivant en France. On leur pose des questions de droit dans une langue qu'ils ne comprennent pas. Cette scène, elle est aussi vécue par des personnes vivant en France qui veulent juste déposer plainte ou comprendre leur avocat, mais qui ne parlent pas français. Vous l'avez vu, c'est déstabilisant de ne pas comprendre et de se faire comprendre. C'est effrayant même quand notre capacité à discuter, la plus quotidienne de nos activités, devient la première barrière de notre intégration. Et cette peur, elle monte encore plus, parce que toutes ces situations ont un même enjeu, majeur, celui de connaître vos droits et vos devoirs, socle de toute démocratie. Il y est aussi question d'être traité dignement par la justice et la police. Et alors que la panique vous envahit, imaginez qu'une personne s'assied à vos côtés et traduise en français et en arabe tout l'échange, sa tête se tournant de gauche à droite entre vous et votre interlocuteur, et sa voix vous permettant enfin de tout comprendre. Dans le monde judiciaire où chaque mot compte, ces professionnels œuvrent pour que les personnes dans le besoin ne perdent ni le sens ni l'enjeu que porte chaque phrase prononcée lors de chacun de leurs échanges. Leur métier a un nom, on les appelle les interprètes de justice.
Vous écoutez Oppression, le podcast de la section radio du QEJ consacré au racisme. Cum bitartim irui etika, un épisode signé Sarah Khalifi.
Nous sommes en décembre 2016. J'ai 15 ans, j'entre au lycée et je grandis dans un petit village d'Ardèche qu'on appelle Lévance. 2600 habitants à tout casser, presque pas de connexion internet, dans le département le plus enclavé de France. On ne peut s'y rendre ni par avion, ni par train et encore moins par bateau. Il n'y a que les routes sinueuses qui serpentent entre les gorges du Chassezac pour nous guider jusqu'à la civilisation. Un peu une bulle. Un monde à part. Et jusqu'à présent, mon petit village est comme éloigné de la grande préoccupation de l'Europe.
La crise migratoire se poursuit et elle va se poursuivre tout au long de cette année 2016. 36 personnes, dont plusieurs enfants, sont morts noyés au large des côtes turques. Ils tentaient de rejoindre l'Europe, une Europe qui ferme peu à peu ses portes.
La crise migratoire européenne, comme l'appellent les médias. Mais ça semblait loin d'Évance, tout ça. Enfin, c'était jusqu'à ce mois de décembre 2016. À ce moment-là, nous sommes encore le seul département à ne pas avoir accueilli de migrants chez nous. Mais cette fameuse vague dont les médias parlent finit par s'échouer sur notre rivage. Et voilà qu'en fin d'année, un peu plus d'une trentaine de personnes obligées de fuir leur pays trouvent refuge dans notre ancien hôpital abandonné, en plein centre du bourg. La plupart fuient la guerre au Darfour, et leur intégration nous met face à toutes nos contradictions. À commencer par moi, qui vois ma conception de la police changer. Car au rythme de l'accueil de ces nouveaux arrivants, je vis une situation qui me fait découvrir un métier que je ne connaissais pas, celui d'interprète de justice. Un métier qui essaye de rendre la justice encore plus juste, de faire de la langue une clé et non pas une barrière, et de mettre un peu plus d'humanité dans les institutions souvent accusées d'être racistes et violentes envers les communautés perçues comme racisées. Cette découverte, elle a lieu quelques mois après que les migrants aient trouvé refuge dans l'ancien hôpital de mon village. Logiquement, ils se retrouvent très vite face à cette limite très claire. Ils n'arrivent pas à se faire comprendre. Ils viennent d'Afghanistan, de Syrie, d'Afrique de l'Est, et ils parlent donc tous arabe. Or, qui d'autre au Vence parle arabe ? Eh bien, pas grand monde, excepté quelques personnes, dont mon père, algérien. Il décide alors de se transformer en courroie de transmission de fortune, et sur ses heures de pause, sur le week-end, il les aide à dialoguer avec des médecins, des associations, et surtout, la police. C'est là que ça devient dissonant pour moi. Dans mon monde, c'est juste impossible de concevoir que mon père parle à un flic. Parce que, aussi longtemps que je me souvienne, les policiers, ça a toujours été les méchants de l'histoire avec un grand H. Il faut me comprendre, comme beaucoup d'Algériens et descendants d'Algériens, la police, c'est pas vraiment celle qui nous aide, mais plutôt celle qui noie et tue nos semblables, cette nuit du 17 octobre 1961.
17 octobre 1961, 20h30. Venus des bidonvilles de Nanterre et du 18e arrondissement de Paris, 30 000 manifestants se dirigent vers les Champs-Élysées. Des Algériens qui réclament la levée du couvre-feu instauré quelques jours plus tôt par le préfet de police, Maurice Papon. Le rassemblement est interdit et en vertu du couvre-feu, tout ressortissant algérien, manifestant ou non, peut être mis en état d'arrestation. 10 000 policiers, CRS, gendarmes mobiles vont s'en charger de la manière la plus brutale. Lorsqu'un message radio de la police indique à tort le décès de plusieurs gendarmes, la répression tourne à l'hystérie meurtrière. Des manifestants sont tués par balles, d'autres jetés dans la Seine.
Bon, il faut l'avouer, quand on grandit avec une telle histoire, difficile de faire confiance en la police. Surtout que l'État français n'a jamais reconnu sa responsabilité. Ça fait planer un air d'impunité sur l'institution policière. Et pour renforcer cette défiance qui s'inscrit dans le temps, il y a des chiffres qui montrent qu'on a malheureusement bien raison de continuer à avoir encore peur. Par exemple, il y a cette étude du Défenseur des droits publiée en 2017. Elle démontre que des jeunes hommes perçus comme noirs ou arabes ont 20 fois plus de chances d'être contrôlés et de vivre des relations plus dégradées avec les forces de l'ordre que l'ensemble de la population française. Ils seraient plus facilement tutoyés, insultés ou brutalisés par exemple. Conclusion, les raisons qui poussent des communautés à voir la police et la justice comme des institutions racistes sont multiples et ne datent pas d'hier. Vous comprenez donc que, pour moi, voir la police qui demande de l'aide à mon père pour traduire des propos en arabe, bah ça me fait totalement bizarre. C'est quasiment contre nature. Mais voilà, je découvre que cette grande force violente et injuste peut en fait s'adapter. Qu'elle peut faire de la place pour des postes qui font appel à de l'humanité. Des années plus tard, je me suis donc demandé si cette pratique pouvait dépasser le cadre du bénévolat. Je commence alors mes recherches pour en apprendre plus. Dans un commissariat, je tombe sur une liste, un peu cachée, accrochée sur un petit tableau en liège dans un coin de l'accueil. Des contacts d'interprètes de justice y sont inscrits en toutes petites lettres, avec la langue qu'ils parlent. Arabe, kabyle, kurde. Cette liste, elle est aussi disponible dans l'annuaire de toutes les cours de justice et sur Internet. Et après avoir fouillé celle de la cour de Colmar et multiplié les emails, l'une d'entre eux me répond « Nous allons l'appeler Nadjia ». Anciennement avocate en Algérie, elle a décidé de devenir interprète en arabe après son arrivée en France. Pour cela, elle a dû déposer un dossier auprès d'un magistrat et certifier qu'elle maîtrise aussi bien l'arabe que le français. Elle a accepté de me raconter en quoi consiste son métier, à commencer par énumérer toutes les situations où elle peut intervenir.
En qualité d'interprète, je suis tenue d'intervenir auprès de la justice, généralement le tribunal, la cour de la circonscription, bien sûr, et toutes les instances judiciaires, telles la police, la gendarmerie, et les centres pénitentiaires, et parfois aussi on est tenu de voir, en présence bien sûr d'un avocat, le prévenu. Donc la personne en question parfois ne maîtrise pas la langue et puis il comprend pas ce qui lui arrive. Donc je me présente souvent avant de le présenter par exemple au procureur ou au juge, avec bien sûr la présence d'un avocat, on lui explique la démarche.
Donc ça, c'est les cas où c'est pas pendant la séance que vous intervenez,
oui.
Mais pendant la séance, comment ça se passe du coup à ce moment-là ?
Alors, au moment de l'audience ou au moment de la séance tenante, moi je fais l'intermédiaire peut-être, parce que là, je suis tenue d'interpréter, de traduire les propos que ce soit du magistrat, de la victime et de son avocat. Donc, je traduis les échanges.
Et donc ça, on a compris, c'est les différentes situations où vous pouvez intervenir. À quel moment on peut faire appel à vous ? Est-ce que c'est à tout moment, quelqu'un claque des doigts et dit « j'ai envie d'avoir un interprète » ?
L'intervention d'un interprète, c'est obligatoire. Toute personne ne maîtrisant pas la langue est tenue de demander, parce que c'est son droit. Le code des procédures pénales le prévoit. L'interprète, normalement, il est le premier à être contacté. D'abord pour valider la procédure, parce que ça serait un vice de forme. Parce que la personne ne comprend pas, l'avocat peut le soulever. Et tout est remis en question. Parce qu'il y a quand même des situations quand même gravissimes. Il y a des gens malades qui ne savent pas s'exprimer, des gens qui prennent des traitements, des trucs lourds, donc qu'il faut quand même annoncer à l'avance.
Et est-ce que de manière globale, vous avez l'impression que le grand public, il connaît votre métier ?
Non, c'est pas tout le monde, non. Et les gens ne savent pas comment s'y prendre. Les gens n'ont pas cette culture. Non. D'abord, on connaît pas, généralement, on connaît pas nos droits. Et c'est le cas pour l'interprétariat.
Et est-ce que vous pouvez expliquer concrètement en quoi, en fait, votre rôle, il est essentiel pour eux ?
Mon rôle, c'est que d'abord d'apporter le calme. Parce que je pense à la vue d'une personne du même pays, de la même région, c'est rassurant quand même un peu. Et le fait de lui parler dans sa langue, les choses arrivent facilement. Là, il se retrouve parfois avec sa compatriote. Donc, sa compatriote, c'est l'esprit de confiance. Et un apaisement, quand même, est déjà de fait.
Du coup, il y a l'apaisement. Et il y a quoi d'autre que vous leur apportez
L'apaisement, l'explication, les termes, parce que le juge est tenu de parler en termes, d'utiliser des termes juridiques. Donc, il faut apporter ces explications, c'est-à-dire dans le détail. C'est-à-dire, c'est pas un terme technique que je vais transmettre dans le même langage. C'est-à-dire, j'aurais pas pris un terme, par exemple, partie civile. Je vais pas lui dire que vous êtes partie civile en arabe. Vous comprenez. Donc, je le dis d'une manière plus succincte, plus simple, plus pour pouvoir lui apporter un message clair. D'ailleurs, la langue, c'est un moyen de communication. C'est un moyen de traduire mes ressentis envers la personne en question. Ça permet aux deux parties de s'expliquer, parce que se retrouver devant un magistrat, c'est apporter des éclaircissements à ses actes. Pourquoi j'ai fait cet acte ? Est-ce que j'ai des raisons ou j'ai pas de raisons ?
Et est-ce que aussi peut-être le fait que vous appartenez à la justice ou vous collaboriez avec la police, il y a peut-être de la défiance aussi vis-à-vis de vous ou pas ?
C'est pas de la défiance, plutôt de la méfiance. Ça, c'est dans l'histoire aussi, c'est dans les jeunes. Et dire interprète, c'est que je suis du côté du plus fort, je suis du côté de la justice, c'est ce qu'ils comprennent. Mais quand on essaie de leur expliquer le rôle exact et l'objectif de ma présence, je pense qu'il y a certains quand même se détendent et font confiance.
C'est quoi qui vous a motivé en fait à faire ce métier qui est quand même assez particulier ?
Ce qui m'a motivé, c'est beaucoup plus parce que j'étais dans la justice, je connaissais le domaine. Et je voulais le côté humain. Donc je dis, et peut-être l'interprète, ça devrait être que ça, par rapport à l'expression, parce que j'ai vu dans mon entourage, que j'ai connu à l'époque, j'ai vu quand même pas mal de gens ne s'expriment pas très bien, c'est-à-dire soit dans l'administration, soit à l'extérieur, et j'ai compris que la communauté, ma communauté, avait besoin de ça, c'est-à-dire du moment que ça se passe au niveau de l'administration, ça doit être aussi au niveau de la justice.
Et est-ce que vous pensez au final que votre métier, au-delà d'aider les gens comme on l'a beaucoup évoqué là dans cette discussion, il peut peut-être permettre aussi de créer une relation plus apaisée entre la police et les populations qui ont de la méfiance envers elles ?
Peut-être durant la procédure, oui, il était nécessaire, parce que je vous l'avais dit, il faut calmer les esprits. la communauté en général ont tendance, certains ont tendance à être un peu récalcitrants et tordus. Donc, pour apporter délivrance à et dénouement à cette situation, il faut qu'il y ait du calme et de la paix des deux parties. Parce que là, si on commence sur les chapeaux de roue, la procédure judiciaire, ça n'en finit pas. Et donc, je me dis, peut-être je suis utile dans les deux cas, que ce soit pour la justice, que ce soit pour la personne en question. Donc, je fais quelque part un rôle quand même d'intermédiaire pour apporter la paix, pour apporter peut-être le calme. Et faire les choses dans les règles de l'art. Parce que s'il y a une justice quelque part, il faut l'atteindre.
Aujourd'hui, plus de 79 000 personnes sont incarcérées dans les prisons françaises, selon le rapport de novembre 2024 de la Défenseuse des droits. Selon le ministère de la Justice, il y a chaque jour environ 2200 personnes placées en garde à vue. Tant de situations où la non-compréhension de la langue peut mener à des biais racistes de la part de la police, nourrir le sentiment de défiance à l'égard de cette institution et mettre directement en danger les droits des personnes étrangères ou non francophones. C'est pour cela que, dans son dernier rapport, la rapporteuse des droits Claire Hédon a établi une liste de recommandations. Elles peuvent s'appliquer à toutes les échelles de la justice. Et parmi elles, elle demande une adaptation des prisons aux personnes vulnérables, dont les personnes étrangères. Ce qui passe, selon elle, par rappeler le rôle des interprètes, leur donner plus de moyens financiers et rappeler aux personnes le droit qu'elles ont en bénéficier. Phénomène parallèle à ce triste tableau, l'activité des interprètes de justice a quasiment triplé en 10 ans. Dans une question écrite adressée au gouvernement français le 25 avril 2023, le député La France Insoumise Aymeric Caron affirmait qu'il existerait en France 8500 interprètes actifs. Il y a 10 ans, on en décomptait seulement 3500. Et c'est peut-être un signe que, plus que jamais, l'interprétariat est de plus en plus perçu comme indispensable dans les institutions de la justice. Chacun interprétera ces chiffres comme il le voudra, mais je vais laisser le dernier mot à Nejia, qui a réussi à résumer assez bien tous les enjeux de cet épisode.
Je pense que la langue est non seulement un moyen de communication, mais c'est un moyen de paix. Et dès qu'on engage le dialogue avec la personne en question, le calme est automatiquement présent.
C'était Oppression, le podcast de la section radio du QEJ consacré au racisme. Cet épisode a été imaginé et fabriqué par Sarah Khelifi en novembre 2024. Coordination, Thomas Rozek et Céline Aslo. Réalisation, Jean-Christophe Galen. Tous les épisodes sont à retrouver sur le site du QEJ, QEJ.info.